Radio Django. Vivre à Lausanne.
Et on a pris l'habitude sur Django de présenter sur nos ondes les nouvelles éditions bimestrielles de Moins, le journal roman d'écologie politique. Il s'agit aujourd'hui de parler du numéro 25 qui couvre les mois d'octobre et novembre. Comme d'habitude, également, Fabio, tu l'as lu pour nous et tu as invité cette fois-ci deux rédacteurs pour nous guider à travers les articles et le dossier qui caractérise ce magazine.
Oui, c'est ça. Bonjour Philippe Huguenin et Sabesan Sabaratnam.
Bonjour.
Salut. Vous êtes deux parmi les rédacteurs et rédactrices de Moins. Et c'est avec vous qu'on va feuilleter ce numéro 25 dont le dossier aborde le thème du nucléaire. Et ça tombe bien puisque le peuple suisse va voter le 27 novembre prochain sur l'initiative fédérale pour une sortie programmée du nucléaire. Vous dites d'ailleurs dans votre édito que le thème du nucléaire est souvent relégué à l'arrière-plan des préoccupations écologiques actuelles.
Oui, parce que c'est vrai que les sujets les plus discutés actuellement au niveau écologique, c'est plutôt les questions de dérèglement climatique. Et on en parle beaucoup à travers notamment la COP21 qui a focalisé donc sur cette question. Et du coup, la question du nucléaire est reléguée effectivement parfois à l'arrière-plan. Souvent, le nucléaire, il fait parler de lui quand il y a des catastrophes et des accidents, mais après, au bout de quelques mois, quelques années, on a tendance à mettre de côté cette question-là, mais alors que c'est un sujet qui reste
absolument
très, très...
important, ouais. D'ailleurs, il y a un article dans ce numéro, en nucléaire, en finir avec l'énergie du désespoir, qui parle justement de ça, c'est-à-dire de mettre le nucléaire en avant, qui a... entre guillemets, pris un peu la place d'autres thématiques écologiques, mais qui reste d'une importance capitale.
Voilà. Et le problème avec le nucléaire, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à percevoir, en fait, hein, parce que nous, ce qu'on a l'impression, c'est que le nucléaire, ça nous apporte de l'électricité, donc on est content d'avoir de la lumière ou du chauffage électrique.
Des micros qui tournent.
Des micros grâce au nucléaire, on voit que ce côté-là, mais tous les côtés négatifs, en fait, sont très difficiles à percevoir, parce que c'est des radiations, essentiellement des déchets qui sont stockés dans des endroits lointains, qu'on veut enfouir sous la terre, ou... voilà, c'est des centrales qui sont loin de chez nous, qu'on ne voit pas. Et donc, c'est difficile à faire prendre conscience à la population des risques et des dangers du nucléaire. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de passer par une approche explicative pour montrer en quoi c'est dangereux. Donc, il y a évidemment les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima qui montrent ce qui pourrait nous arriver si tout d'un coup, il y avait effectivement un accident majeur qui se passait à côté de chez nous.
Philippe Huguenin, vous faites un petit peu l'apologie du drame et du danger du nucléaire dans cette édition, dans ce dossier de Moins ?
Pas du tout, non. Alors, je ne crois pas, hein, parce qu'on peut montrer, on a montré que... après Fukushima, il y a eu une volonté des politiciens et de la population japonaise de trouver des solutions pour compenser le manque de production d'énergie électrique.
Il y a un article là-dessus.
Et qui a très bien fonctionné, en fait. Hein, il n'y a pas eu un effondrement catastrophique comme des fois les producteurs de nucléaire nous annonce, hein, si tout d'un coup on doit arrêter le nucléaire, alors que au Japon, c'était brutal, hein. C'est clair que du jour au lendemain, quasiment, il y a eu 40% de la production d'électricité qui n'était plus fournie, et donc il a de toute façon fallu trouver des solutions, et les gens ont continué à pouvoir vivre. Alors effectivement, en été, il a fallu abaisser la température ou augmenter en fait plutôt la température de confort de 26 à 28 degrés pour réduire la consommation de la climatisation. On a arrêté les escalators. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent paraître être complètement difficiles aujourd'hui à faire. Mais...
Philippe, dans cet article qui s'appelle « Cette soudaine, une opportunité ratée », qui parle justement qui explique effectivement ce que tu viens de dire. Et à un certain moment, on parle aussi des cravates, des employés. Il faudrait leur enlever la cravate parce que comme ça, ils auront moins chaud et on pourra moins mettre de l'air conditionné.
Voilà.
Ça.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'énergie nucléaire, elle a été complètement proposée de manière artificielle. C'est-à-dire que ça ne correspondait pas du tout à un besoin. Quand il y a eu des centrales nucléaires qui ont été construites, les gens n'avaient pas besoin d'électricité. Et il y a eu tout un programme pour encourager la consommation d'électricité dans les années 60-70, hein, notamment la climatisation, les systèmes, le chauffage électrique, l'électroménager, etc. Et voilà, donc c'est ce qui, d'ailleurs, continue à se faire aujourd'hui dans les pays où il y a des projets de nouvelles centrales nucléaires, il n'y a pas besoin d'autant d'électricité. Donc, aujourd'hui, maintenant qu'on est habitué à cette consommation d'électricité, il faudrait qu'on se désaccoutume, qu'on se désintoxique en quelque sorte de cette hyperconsommation d'énergie. Mais si on ne l'a pas à disposition, on peut très bien s'en passer ou trouver d'autres solutions qui sont envisageables, notamment... Pour la climatisation, on peut envisager plein d'autres solutions écologiques qui sont très, très intéressantes et voilà, que parfois on redécouvre maintenant, notamment les puits canadiens qui permettent d'aérer, de tempérer les maisons sans climatisation.
Absolument. Sabazan, tu voulais nous parler d'un article qui s'appelle « Une épée de Damoclès en permanence au-dessus de nos têtes ». Et qui met en lumière un peu la dangerosité de l'industrie nucléaire.
Oui, alors comme on a dit au début, c'est quelque chose qui est inhérent avec le nucléaire, mais comme avec tous les problèmes qui ont trait à l'écologie, c'est qu'on ne voit pas, en fait, c'est des choses qu'on ne voit pas. On ressent peut-être une légère augmentation, ou bien on voit des changements de météo, mais vraiment, dans l'environnement, on voit que c'est quelque chose qui est très problématique pour faire changer les comportements aux gens. C'est des choses qu'on ne voit pas. Et bien avec le nucléaire, moi, c'est exactement le même problème. Et c'est pour ça qu'on a fait quelques articles pour montrer aux gens qu'il y a eu des catastrophes. Et puis qu'il faut vraiment faire... C'est une technologie qui est clairement super dangereuse, qui n'est pas totalement maîtrisée. Et puis on nous fait croire beaucoup de choses. Il y a un lobby qui est énorme. Et puis cet article-là, il revient... sur plusieurs exemples, en fait, où le nucléaire n'a pas réussi à montrer cette sûreté qu'on nous garantissait au départ. Donc, on a plusieurs exemples qui sont récents et proches de la Suisse. Donc, on a par exemple l'exemple de Crémalville, qui était vraiment tout près de la Suisse, où on a eu un gros problème de fusion. Ou bien, on a encore un autre exemple en 2013, donc qui est très très récent, où on a un bateau qui transportait des matières radioactives qui a pris feu. Ou bien encore l'armée américaine qui perd des bombes. Et puis c'est quelque chose qui est, ça fait rire. Mais
ça dépasse un peu l'entendement.
Voilà, exactement,
quoi.
C'est ça. C'est vraiment, on se dit, mais qui c'est qui nous fait croire ce genre de choses. Donc voilà.
Et puis on fait joujou avec toute une série de matériel extrêmement dangereux.
C'est ça, c'est que des fois on a l'impression que les nucléocrates, comme on les appelle, ont joué d'énormément de chance, en fait. Il y a eu vraiment des situations où il s'en a fallu de très peu pour arriver à une catastrophe. Et donc, voilà l'exemple, par exemple, de Lucent aussi. C'était un réacteur expérimental suisse pour développer la filière suisse qui a tourné très peu de temps.
3 semaines de trop. Mais...
Et au début, ils voulaient l'installer sous le Polytechnique fédéral de Zurich, en fait, parce que les physiciens nucléaires étaient vraiment sûrs que ça allait marcher, qu'il n'y avait pas de raison de le mettre dans un endroit éloigné de tout. Donc, là, il y a quand même eu, heureusement, des gens, une société civile ou des politiciens qui ont dit « mais peut-être que ça peut être dangereux, donc autant le mettre ailleurs ». Mais s'il y avait eu une fusion sous le Polytechnique de Zurich, certainement qu'en Suisse, le développement du nucléaire n'aurait pas pris forcément la même ampleur qu'on connaît aujourd'hui, en fait.
Bien sûr.
Donc voilà, c'est des questions qui...
Alors oui, tu parles un peu de cette inconscience que peuvent avoir certaines personnes à proposer des techniques aussi dangereuses. Et il y a un article qui parle, qui s'intitule « Est-ce que c'est un monde sans nécrotechnologie ?»
C'est ça, c'est que ce qu'on essaye de développer dans le journal Moins, c'est... pas se focaliser uniquement sur un aspect, mais de le voir de manière un peu globale, en fait, et de réfléchir à comment notre société pourrait évoluer vers un monde un peu moins irraisonnable ou déraisonnable, comme on peut le dire. Et c'est vrai que le nucléaire, c'est une nécrotechnologie, une technologie qui apporte la mort, qui est très connue et qui est admise comme telle depuis longtemps, notamment avec les bombes atomiques. Mais il y a d'autres formes de nécrotechnologie, en fait, et notamment les technologies, les biotechnologies, technologies OGM, qui veulent neutraliser le vivant, contrôler le vivant, donc contrôler les semences. C'est quelque chose qu'on conteste, auquel on s'oppose. Mais après, il y a aussi les nanotechnologies, qui sont des technologies qui développent des très très petites matières, des matériaux extrêmement petits, qui peuvent après du coup entrer dans l'organisme et développer des nuisances encore difficiles à connaître.
C'est celle qu'on emploie, nanotechnologie dans les cosmétiques.
Voilà, dans les cosmétiques. Il y a même maintenant, on s'est aperçu que dans les bonbons pour Halloween, il y avait plein de nanotechnologies.
C'est pour la couleur, ça.
Oui, c'est pour la couleur, c'est pour que ce soit plus brillant, que ce soit plus attractif.
C'est le jour des morts.
Et que ça prie la nuit.
Et pour
célébrer la mort.
Oui, alors ça tombe bien. C'est une mort un peu diffuse. Et même, on considère que quelque part, Internet peut être considéré comme une nécrotechnologie, parce que ça tue les relations sociales, en fait. On nous fait croire qu'avec Internet, on est en contact avec plein de monde, mais en fait, on est obligé d'avoir un écran, des machines et des énormes infrastructures qui, finalement, nous empêchent d'avoir un contact réel et bienveillant et normal avec les humains, en fait. Et donc, on essaye de réfléchir à ces questions-là.
Bien sûr, puis on le sent à travers tout ce journal de 30 pages. Le dossier sur le nucléaire, il y a encore beaucoup d'articles qui parlent notamment de comment en Suisse il y a eu une certaine. Le mouvement anti-nucléaire s'est créé. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir qu'il s'est créé tout parti confondu, même jusqu'à la droite nationaliste. Dans la mesure où elle critiquait le fait que la population n'avait pas du tout décidé d'avoir du nucléaire ou pas. Très 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 fouillé comme toujours ce dossier. Il manque quelque chose. Il y a des choses dont vous auriez voulu parler puis que c'était un peu compliqué.
Oui, évidemment,
il y a plein de choses à dire. Mais c'est vrai que déjà pour revenir sur Lucent, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que à la base ça a été construit pour l'Expo Nationale 64, et puis c'était pour montrer le génie helvétique quand même. Ouais. Et ça a très mal tourné. Mais c'est vrai que c'est vraiment une technologie où il faut faire très 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 attention. Et là, on a vraiment l'occasion de mettre fin à ça.
On sort un petit peu du dossier, complément du dossier nucléaire, pour revenir sur une double page, la 4 et la 5, dont tu voulais nous parler, Philippe, peut-être, Revenir sur Terre, qui reprenait un peu ce que tu disais aussi par rapport au nucléaire et l'ambition de tout contrôler, de tout vouloir contrôler et de distendre ce lien entre les humains.
Oui, c'est un article qui est très intéressant parce qu'il prend un petit peu de recul par rapport à notre situation actuelle. Donc il a une analyse intéressante qui reprend en fait les travaux des premiers sociologues allemands qui ont étudié l'industrialisation en Allemagne entre 1890 et 1920, qui est écrit par un jeune sociologue historien qui s'appelle Aurélien Berland, qui a d'ailleurs enseigné parfois à l'Université de Lausanne, donc peut-être que certains auditeurs connaîtront son nom, ses idées. Donc l'idée, c'est de montrer que, en fait, les problèmes qu'on trouve aujourd'hui, les problèmes sociaux, les problèmes politiques, les problèmes culturels, existaient déjà avant et ont été provoqués par le développement de l'industrialisation. En fait, c'est que toutes les tensions qui existent aujourd'hui ont leur origine dans l'industrialisation, notamment la dissolution des formes de vie communautaire, qu'un sociologue allemand a analysé à ce moment-là, sont toujours existantes et provoquées par ces processus d'industrialisation. Il y a aussi toute la problématique de la marchandisation des liens et des biens qu'on dénonce assez allègrement, surtout les partis de gauche, dans la la dénonciation de la marchandisation du monde, en fait, et c'est quelque chose qui existait déjà fin du 19e, début du 20e siècle. Il y a aussi toute la question de du renforcement des logiques gestionnaires et disciplinaires qui conduit à une oppression, en fait, des individus et de la société, qui empêche, en fait, les gens de se développer par eux-mêmes, de choisir comment ils voudraient vivre, comment ils voudraient, quelle alimentation ils voudraient avoir, quel travail ils voudraient faire. Enfin, voilà, c'est toutes ces questions.
Et la révolution Internet n'a pas arrangé les choses.
Non, alors justement, ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est de faire croire que la révolution Internet, c'est une sorte de post-industrialisme, alors que finalement, ça accentue encore plus l'industrialisation, en fait. C'est plutôt une hyper-industrialisation.
Qu'une post-industrialisation.
Voilà, alors on industrialise d'ailleurs les rapports sociaux, d'ailleurs, avec le système des réseaux sociaux, de toute l'économie collaborative, comme on appelle, et ça étend, en fait, le champ de la marchandise et de l'industrialisation dans le monde, dans notre réalité, quoi. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est de faire croire qu'on vit dans un monde individualiste, en fait. On nous fait croire qu'on vit dans l'individualisation, alors qu'en fait, ce qui s'est beaucoup développé, c'est les organisations. En fait, là, aujourd'hui, ce qui est le fait marquant, en fait, c'est l'organisation et la rationalisation de ces organisations.
Voilà, donc le numéro de Moins, le 25e qui couvre les mois d'octobre et de novembre, est sorti. Il est dans les kiosques au prix de 5 francs. Vous pouvez également vous abonner sur achetezmoins.ch pour le recevoir directement à la maison. Et on rappelle d'ailleurs que l'aventure Moins se base beaucoup sur les bénévoles, et que si vous voulez participer à la prochaine mise souplie du numéro, ça se fera le 1er décembre à Vevey. Toutes les informations sur le site du journal. Merci beaucoup Philippe Huguenin. Merci également à vous Sabessa Sabratnam d'être venu nous parler.
Merci à vous.
De nous avoir accueillis.
Je rappelle que vous êtes les deux rédacteurs de ce journal. On vous a mis tous les liens pour lire cet article, enfin lire ce journal, vous abonner et vous le procurer sur notre site www.django.fm. Et merci à Fabio.